Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité chaque jour du lundi au vendredi sur Africa Radio. Aujourd'hui, vendredi, c'est bien sûr la libre antenne, c'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Nous parlerons de la contestation post-électorale en Mauritanie et de la coupure d'Internet. Nous évoquerons aussi, bien sûr, le premier tour de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Quel bilan faites-vous de ce premier tour? Nous pourrons également faire le point sur l'actualité en République démocratique du Congo avec ce retour du leader du MLC Jean-Pierre Bemba, très critique envers le président Félix Tshisekedi. Pour nous donner votre avis sur le sujet de votre choix, participez à l'émission. Le numéro c'est le 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Avant de vous écouter en direct, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Africa Radio. Bonjour aux auditeurs. Oui, j'ai appris que M. Mbia est venu en Suisse se faire soigner. Je dis oui, M. Mbia a le droit de venir en Suisse se faire soigner après 37 ans de pouvoir. Oui, la famille Mbia a le droit de venir en Suisse se soigner. Oui, les 25 millions de Camerounais ont le droit de venir en Suisse se soigner. Toutefois, la diaspora camerounaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, a le droit d'aller demain massivement en Suisse samedi, dire d'une manière pacifique, je pèse bien mes mots, d'une manière pacifique, dire à M. Biya de stopper sa guerre dans la région nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Il y a déjà eu 2000 morts, selon le gouvernement camerounais. Dire à M. Biya de libérer les 6000 anglophones. Dire aussi d'une manière pacifique par rapport aux élections du 7 octobre 2018, le recomptage des PV. Merci. Merci, Africa Number One.
Oui, bonjour le monde. Mais je ne comprends pas. Pourquoi les Africains même sont bêtes? Pourquoi nous sommes bêtes? Une fois qu'un homme, un président n'est plus au pouvoir, le monde entier le traite de tout et de rien. Et nos frères moutons, là, les suivent aussi dans ça. Il y a jamais là, parce qu'ils sont en train de chercher voies et moyens pour le mettre en prison. Mais attends, nous, on a vu Bush ici.
Oui, allô, cher ami auditeur de Radio Afrique. Je vous appelle ce matin parce que je viens d'arriver d'Abidjan. Franchement, je suis désolé, c'est le désordre. Il y a un grand désordre à la Côte d'Ivoire. Un grand désordre, c'est-à-dire que c'est un pays qui a beaucoup d'avenir, mais malheureusement, ceux qui y gouvernent en ce moment-là, c'est la catastrophe. Je pense qu'il faut réorganiser la Côte d'Ivoire, il faut rééduquer les gens, il faut... Abidjan n'est pas... Il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment... C'est malheureux, quoi. Un pays qui a beaucoup d'argent et il y a la misère. C'est-à-dire que vous allez dans un quartier, même dans un quartier UP, on a l'impression d'être toujours à damer. Parce que les poubelles traînent partout. Il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Il n'y a rien pour ces gens de trucs. Tout est... En tout cas, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Vera pareil. Bonjour Africa et bonjour Stéphanie. Ben, vous savez, il y a trop d'hypocrisie dans ce monde et souvent tu ne peux pas te taire, c'est trop fort. Vous savez, monsieur le président Macron est allé au sommet du G20 et dans le train qu'il y a mené, il a été interrogé par les journalistes qui eux lui parlaient, n'est-ce pas, de qu'on appelle ça du sentiment anti-français en Afrique francophone. Et voici la réponse de Macron. Vous savez, Nitité Serval, la Guyadis aurait déjà pris Bamako. Donc, ils vont nous dire merci. Voyez. Et puis, en plus, il réajoute, il faudrait que les Africains prennent, n'est-ce pas, leurs responsabilités. Mais moi, ce mot-là, ça me sort de port. Il faudrait que les Africains prennent leurs responsabilités. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? J'ai toujours dit, quand les Africains prennent les responsabilités en main, et quand ces responsabilités n'arrangent pas l'Élysée, et puis elle, l'Élysée, elle fait ce qu'elle veut. On n'est pas là pour des propos diffamatoires, ce sont des faits. Voilà, quand les Africains ont pris leur courage et ont pris leur responsabilité, la responsabilité de leur destinée à Lumumba, qui est-ce qui a tué Lumumba? On peut me dire comme on l'a dit pour Kadhafi, hein? non, c'est pas ça, c'est compliqué de tuer Kadhafi. Sont sérieux?
Oui, bonjour Madame Stéphane Atman et bonjour Afrique Radio. Congolais et Congolaises de la RDC, soyons debout et restons vigilants. Les accords de domination signés par Félix Tshilombo détruisent notre beau pays, la RDC. Le mariage de l'IDPS et le FCC, Fonds commun de corruption, devait disparaître. La RDC est vraiment dans l'occupation, mes chers frères. Soyons debout. Le combat doit continuer jusqu'à la libération du pays. L'IDPS nous a trahis. Papa Tshisekedi de son vivant disait: les enfants, ramène-moi Kabila, je vais les expatrier au Rwanda. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est Félix Kabila partenaire. Donc, l'IDPS est là pour faire la politique du ventre. Merci. Le Congo nous appartient. Sois debout. C'est un faux moment. Ciao.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis de Judéa, le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Le déboulonnage de M. Kabila se fera par nous-mêmes, le peuple congolais. Ce monsieur-là doit être déboulonné avec son système, avec son parti, son plateforme, FCC, qui bloque le pays, qui ont pris toutes les décisions de la République démocratique en otage pour que Kabila règne et pour que Kabila reste encore au pouvoir, pour que Kabila reste encore influent dans les affaires de l'État, de la République démocratique du Congo, dans les finances. Nous, les Congolais, nous disons non. Ce monsieur-là doit être brûlé, brûlé avec la puissance de main, avec beaucoup de choses pour que nous, le peuple congolais, si nous voulons être libres, si nous voulons vraiment être libres, soyons ensemble avec les intérêts du peuple et pour brûler Kabila. Et le pays sera libre parce que ce monsieur-là bloque le pays. Il ne veut pas que le Congo soit redressé. Le Congo reste toujours dans la pauvreté. Mais nous, les Congolais, nous disons, ce mec-là, il est déjà tombé et nous voulons seulement l'enterrer. Aïko Mopong, il reste un combattant africain.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Commençons sans plus tarder cette libre antenne avec la situation en Mauritanie. En Mauritanie, une centaine d'étrangers ont été arrêtés. L'internet est toujours coupé. Les manifestations ont éclaté dans le pays après l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi, Oul Razouani. Alors, que faut-il attendre de la situation en Mauritanie? On se dirige tout de suite à Nouakchott. Retrouver Chekna. Chekna, bonjour. Ah. Internet est... Ah, Chekna?
Oui, allô?
Oui, bonjour Chekna, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous vouliez nous parler un peu de la situation en Mauritanie. Internet est toujours coupé, c'est bien ça?
Oui, jusqu'aux dernières nouvelles, Internet est toujours coupé, mais à ce qui paraît, selon les dernières nouvelles, ce sera établi durant la journée.
D'accord. Bon. Vous disiez que la situation en Mauritanie était très grave. Il y a eu plusieurs personnes d'arrêtées, des ambassadeurs de la sous-région convoqués. Est-ce que ça vous inquiète, vous, à Nouakchott, cette situation?
Mais bien sûr que ça nous inquiète. Ça nous inquiète au plus profond parce que la situation, ce que les gens disent et ce qu'on entend à travers les médias, la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe réellement. Parce que l'État ne dit pas vraiment ce qui se passe en ce moment. On est dans une situation où la population est en train de se réveiller et de comprendre quelques enjeux qu'on est en train de subir et qu'on est en train de vivre en ce moment. Mmh. En prenant juste l'exemple des étrangers, par exemple. Mmh. La plupart du temps, ils disent que, genre, il y a des étrangers qui étaient dans la manifestation et tout. Ce qui est faux. Moi qui étais là-bas, j'ai vu, genre, c'était des Noirs. Et c'est peut-être parce que c'est des Noirs qui disent que c'est des étrangers. Mmh. Mais la plupart des gens qui étaient là-bas, c'était des Mauritaniens, des citoyens mauritaniens, la jeunesse mauritanienne. C'était eux qui étaient dehors. Et les étrangers, ça me fait mal parce que les étrangers, la plupart des étrangers qui sont là en Mauritanie, c'est des gens très braves qui s'occupent juste de leur travail. Et en rentrant chez eux, la plupart d'entre eux ont été arrêtés. En rentrant chez eux, à la descente de leur travail, ils voient une foule, ils savent même pas ce qui se passe. Et donc, ils sont arrêtés arbitrairement. Et après, pour nous dire que c'est les étrangers qui mènent quelque chose qui ne les concerne même pas.
En fait, si on comprend bien, Chekna, hein, le pouvoir mauritanien qualifie d'étrangers les négros mauritaniens. C'est ce que vous dites. Hein.
Bah, dans un sens, pas explicitement, mais c'est ce qu'ils veulent dire. Parce que moi, mauritanien, j'y étais. Et j'étais avec plein de gens, avec plein de ressortissants mauritaniens. On était sortis juste pour histoire de voir ce qui se passe, en fait. Mm. C'était même pas des manifestations organisées, rien n'était encore soi-même. Genre, on attend, là, en ce moment, nous, on attend les recours. On attend, il y a des candidats de l'opposition qui ont déposé le recours. On attend la réponse du Conseil constitutionnel. Et pendant ce temps-là, genre, il y a eu des petits regroupements. Mm. Et il y a eu aussi, je peux pas les lier. Dans chaque manifestation, il y a souvent des casseurs. Et ils utilisent ça pour dire que c'est des étrangers qui étaient là, or que ils ont banalisé ça. Il y a un mec qui est coupé, au moins fondamental d'expression, on peut même pas communiquer. Mm. Genre, c'est le vrai grave, en fait. Mm.
La France a rapidement salué la victoire du candidat Roul Razani. Quel regard portez-vous sur cette réaction de la France?
Bah, qu'est-ce que je peux dire? Je peux juste dire que c'est sûrement des enjeux qui nous dépassent. C'est des enjeux politiques ou je sais pas. C'est quelque chose qui nous dépasse. Vu que nous-mêmes, population, on ne comprend pas ce qui se passe. La plupart des gens, que ce soit les sondages, que ce soit tous les analyses qu'on avait fait préélectoralement, genre, c'était impossible que Razani gagne les élections au premier tour. Mmh. C'était statistiquement impossible.
Pour vous, il y a eu de la fraude alors, hein, si on comprend bien.
Bah oui, c'est la fraude. Au minimum, tout ce qu'on peut demander, c'est le recomptage des voix. Mmh. Et après cela, nous, on n'a aucun problème. Nous, la jeunesse, on n'a aucun problème par rapport à cela. On n'est pas politiciens. Tout ce qu'on veut, c'est une Mauritanie unie. Mmh. Ils essaient de nous diviser en ce moment, et c'est très grave.
Merci beaucoup, hein, Chekna, de nous avoir parlé de cette situation actuellement, hein, à Nouakchott. On aura sûrement l'occasion d'y revenir la semaine prochaine sur notre antenne et dans nos différentes éditions. Bonne journée à vous, Chekna.
À vous de même.
Merci beaucoup. Si vous voulez réagir à la situation en Mauritanie, 33 1 55 07 58 00. On va faire un saut de côté pour se rendre au Sénégal. Écoutez Amadou avant cela. Amadou, bonjour. Oh là là. Amadou.
Allô?
Oui, bonjour Amadou.
Bonjour Stéphanie, la reine africaine, bonjour Radio Africa, mmh. Les éditeurs de Zone Africaine, merci de nous avoir informés. Je viens sur le problème de l'UNSAL.
Alors Amadou, est-ce que vous avez un kit main libre ou un truc comme ça, faudrait l'enlever, c'est parce qu'on entend énormément le bruit autour de vous.
Oui, parce que je suis dans le tram, je vais même à la mosquée, quoi. Mm. Donc j'ai regardé la télévision sénégalaise, sur les antennes, les informations pétrole, courant, tout cela, et à l'UNSAL, ce qu'il a dit, qu'il va démissionner, mais de toutes les manières, même s'il démissionne, ça a toujours été la corruption au Sénégal. Lamidia, qui était le président de Senghor, le ministre de Senghor, le ministre de Sport, a été accusé tout récemment à la Fédération. Donc la corruption a toujours existé au Sénégal. Pourquoi le budget, il ne faut pas se contrôler? Sur ce côté-là, c'est une injustice. Il nous parle en gros du Coran, le Coran qui est contre le vol. Même ton propre argent, il a dit de donner. Et comment tu peux prendre? Mais c'est là qui n'est pas juste. Il y a le favoritisme. Ça ne veut pas dire que son frère, Macky Sall, c'est la co-responsabilité. Le gouvernement Macky Sall est aussi responsable de ce problème-là. Même pourquoi? Parce que j'appelle ça la co-responsabilité. On est responsable, même nos pensées, même nos paroles.
si on tient compte, et surtout ceux qui disent qu'ils se prétendent croyants, ils ne se sentent pas responsables de leurs actes. Une bonne continuation.
Bonne continuation à vous aussi, Amadou. Merci de nous avoir appelé, Amadou, qui s'interrogeait sur ce scandale du pétrole au Sénégal. Je voulais réagir sur le sujet. 33 1 55 07 58 0-0. Allez, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations avec Camara et le match d'hier, Sénégal-Algérie, malheureusement, en tout cas, je ne sais pas, je ne donne pas mon avis, mais le Sénégal a perdu face à l'Algérie, un but à 0. Bonjour Camara.
Bonjour Stéphanie.
Bienvenue dans le journal des auditeurs. Qu'avez-vous pensé de ce match?
Pour moi, l'arbitrage n'était pas à la hauteur.
Ah oui,
c'est vrai, les Sénégalais n'ont pas réagi de la manière dont on les avait donné favoris depuis le début du tournoi et par rapport au classement de la FIFA. Mais l'arbitrage, pour toute personne qui connaît minimum le football, un match de haute valeur comme ça, dont on a réussi 50 fautes, l'arbitre n'a pas eu le courage même de suspendre un joueur.
Un match violent, hein?
Ouais, c'était très très violent. Et du coup, le joueur algérien qui devait être même le joueur même, il était un peu frustré parce qu'il craignait. Parce que deuxième carton, c'était significatif de sortie. Mais les Algériens, quand même, ils ont été vraiment combatifs, mais avec des fautes. Moi-même, vraiment, malgré que je ne les supportais pas, ils m'ont surpris. Et agréablement, leur manière de réagir. Mais l'arbitrage n'était pas à la hauteur. Et les Sénégalais aussi n'ont pas réagi de la manière dont la FIFA même les a donné la position favorable concernant, c'est-à-dire qu'ils sont premiers même pratiquement de l'Afrique. Mais ce n'était pas le cas sur le terrain. Ouais, c'était mon avis.
En effet, merci beaucoup, Camara, pour nous avoir donné votre avis sur ce sujet. Si vous voulez parler de la CAN, 33 1 55 07 58 00. Avant cela, on va faire un détour pour parler de la République démocratique du Congo. On va garder Ruffin, du coup. Ruffin, bonjour. Excusez-moi,
Vous
avez vu.
Bonjour, madame.
Bonjour, Ruffin. Vous voulez parler de la RDC et cette question, pourquoi l'ONU n'a jamais fait d'enquête sur ce qui se passe en RDC? C'est pas tout à fait vrai. Un certain nombre de rapports, le rapport mapping, le comité d'experts sur la République démocratique du Congo, qu'on fait d'énormément...
Madame, les rapports, ça veut dire quoi, les rapports? Ça veut rien dire, ça, les rapports. Les rapports, ça... depuis l'éternité, on a toujours fait des rapports partout.
Vous étiez là au début de l'éternité, Ruffin?
Non, mais j'ai dit depuis que le monde existe, c'est qu'on a fait des rapports.
On n'a pas fait des rapports depuis que le monde existe, quand même. Mais toute proportion gardée.
C'est là-bas dans les tiroirs, madame.
En fait, des rapports, c'est des enquêtes, Ruffin. On est d'accord.
Il n'y a jamais eu d'enquête.
Ah bon?
C'est des rapports spontanés comme ça. À la télé, oui, on a fait un rapport. Il y a le... Comment on appelle...
Donc il n'y a jamais eu d'enquêteur de l'ONU sur place. D'ailleurs, les pauvres, il y en a deux qui sont morts,
Oh, ça, c'est ce qu'on vient de faire croire. Ah. Mais quand je vois les gens de l'ONU, des costumes, cravates, dans l'hémicycle là-bas à l'ONU, madame, vous vous rendez compte, ils veulent aller enquêter, c'est-à-dire enquêter sur le journaliste qui était mort en Tunisie, là, comment on appelle, non pas en Tunisie, en Turquie, celui qu'on avait découpé là, à l'ambassade.
Khashoggi, oui.
Voilà. Moi, ça m'écœurait. Bon, et sa mort, vraiment, ça fait mal que quelqu'un soit tué.
Il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre des responsables congolais après l'assassinat de plusieurs enquêteurs de rapporteurs spéciaux de l'ONU.
On va jamais arrêter les soi-disant autorités congolaises, là, madame. Le conflit en RDC, ça fait plus de 20 ans. Il y a des viols, il y a des fosses communes là-bas. Il y a des fosses communes, tout est là-bas, mais on n'a jamais sanctionné. Personne n'a jamais été sanctionné. On connaît les auteurs, mais ils sont en train de nous tourner là, en tourniquet là, pour dire que non, les enquêtes, les envoyés spéciaux. Mais le nombre des envoyés spéciaux qui sont passés au Congo démocratique.
En fait, ce que vous dites, il n'y a jamais eu de sanctions. C'est pas qu'il n'y a jamais eu de rapport. Vous dites qu'il n'y a jamais eu de sanctions ni de condamnations.
Mais parce qu'ils ne vont jamais condamner parce que c'est des Noirs, ça se passe en Afrique, parce que c'est des Noirs, ils ne veulent rien.
Bon. Merci Ruffin. On va demander justement peut-être à Paul ce qu'il en pense, que Paul voulait parler de la République démocratique du Congo. Je rappelle, il y a quand même un chef de guerre, un responsable de l'armée, Bosco Ntaganda, qui est actuellement le Cour pénale internationale. Paul, bonjour.
Oui, allô, bonjour Madame Stéphanie et bonjour tous les auditeurs et auditrices de notre radio. Vraiment, je commence d'abord par mon compatriote qui vient de passer. Je comprends sa frustration, mais je vais rappeler quelque chose qui est très important. Le 30 juin, c'est le jour de notre indépendance et nous allons commémorer tous nos martyrs. Donc ça veut dire les Congolais qui ont perdu leur vie à cause de la liberté et de l'état des droits au Congo. Et aussi de l'indépendance, le père de tous ces pères de l'indépendance, mais sans oublier que le dossier que mon compatriote vient de dire, c'est très compliqué parce que nous avons eu deux experts des Nations Unies, Sharp, l'américain, et la suédoise, qui ont perdu leur vie à cause de vouloir chercher la vérité sur le massacre des Kamunasap. Donc vraiment, je comprends la frustration. Le problème du Congo, ce n'est pas tellement médiatisé comme d'autres problèmes du monde. Mais quand même,
est-ce qu'il n'y a pas une lassitude aussi du média? Puisque comme le disait finalement Ruffin tout à l'heure, ça fait le conflit au Congo dure depuis 20 ans, moins. Voilà.
Mais aujourd'hui, si j'interviens, c'est pour juste souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Et
ce sera dimanche.
Inviter tous les Congolais de 77 parce que nous allons commencer la commémoration de l'indépendance ce samedi 29 à Melun, au stade Paul Fischer. Et nous tenons aussi à remercier la mairie de Melun qui nous a donné le stade pour commémorer notre indépendance, être en communion avec nos frères qui sont sur place au pays, parce que ce n'est pas une période de joie pour la République
quand vous dites 77, c'est en Seine-et-Marne, en France, qu'on soit clair, Paul. Vous savez, on est écouté un peu partout dans le monde, donc faut situer un peu.
Oui, c'est à Melun, 77, en France. Donc j'invite tous nos compatriotes de l'agglomération mélinoise et de l'île de France qui vont être disposés à venir partager avec nous cette journée. Il y aura des écrivains, comme l'écrivain Giga Benga Chibangu, il y aura beaucoup d'écrivains africains aussi, des amis du Congo, et aussi d'autres Européens qui vont venir proposer leurs livres qui parlent un peu des atrocités qui se passent par-là, dans le coin du monde. Donc c'est un peu ça.
Merci Paul pour l'annonce et Paul qui souhaitait une bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Ce sera le dimanche 30 juin. On retourne en Mauritanie avec Camara et William. En attendant, on attend aussi vos commentaires sur le premier tour de la CAN 33-1 55 07 58 00. Camara, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Oh, ça va, et vous-même, Camara?
Ça va.
Bon. En Mauritanie, vous dites l'intérêt du pays doit passer en premier. Il ne faut pas chercher les problèmes à ce pays calme. Est-ce que la Mauritanie n'est pas un pays trop calme?
Non, on ne peut pas dire que tout est rose là-bas. Ça, c'est la première des choses. Mais là où il y a des ethnies, surtout des races qui vivent ensemble n'importe où, il y a toujours des problèmes. Moi, je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, ce leader-là, on avait des problèmes en Mauritanie. On a les problèmes de cohabitation, on avait les problèmes de vivre ensemble. Mais aujourd'hui, ça a pris un autre tournure. Parce que depuis que ce Michel a surgi, je ne sais pas là où il était. Moi, je ne le connaissais même pas avant. Binam Daoul Abeyla, c'est-à-dire que les gens parlent. Je ne le connaissais pas avant. Moi, j'ai grandi en Mauritanie, j'ai fait mes études en Mauritanie. Depuis qu'il est venu, c'est-à-dire, moi, je sens que dans même la communauté noire, à qui on dit qu'on est en train de séquestrer, on est en train de maltraiter, cette communauté noire-là, même entre elles, même elle est en train de s'excréter, elle est en train de se maltraiter. Parce que il y a beaucoup de problèmes, on dit qu'il y a l'esclavage, il y a les castes, il y a beaucoup de foyers qui sont surgis, il y a beaucoup de foyers qui sont détruits, les mariages sont partis à l'air, il y a des familles qui ne se parlent plus parce que c'est à cause de lui. Quand on veut, c'est-à-dire prétendre à la magistrature suprême, c'est pas ces discours-là qu'il faut véhiculer. Parce qu'à Mauritanie, il n'y a pas que l'esclavage. Il y en a d'autres problèmes qui sont plus importants que l'esclavage. L'esclavage, ça, c'est minime par rapport aux Mauritaniens, ce qu'ils vivent. Au moins, le gouvernement qui est en place aujourd'hui, ils connaissent la Mauritanie, ils ont l'expérience, même au niveau de la sécurité, ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qui est terrorisme, le wahhabisme, les groupes, c'est-à-dire qui font des attentats partout, on est mieux protégés avec ce gouvernement aujourd'hui qu'avec eux. Et ils ne connaissent rien. Ils sont là, ils cherchent seulement à être publiés, à la publicité, ils ne connaissent pas la réalité là. La Mauritanie.
Parce que lui, vous dites alors il faut accepter les résultats, Camara. C'est ce qu'on a bien compris.
Il faut accepter les résultats. Il
ne
faut pas que, c'est-à-dire que les Mauritaniens tombent, c'est-à-dire dans le piège. La Cour constitutionnelle ou la CENI a donné les résultats. Maintenant, s'ils veulent contester, il y a des voix.
Ils l'ont fait, ils ont déposé des recours, Camara, on en a parlé tout à l'heure. Bon.
Faut pas qu'ils véhiculent.
Et concernant la coupure d'Internet, voilà. Ça vous semble.
Coupure d'Internet, c'est normal.
Ah bon
ça n'a pas commencé par eux.
On va couper Internet en France aussi.
Dans tous les pays, s'il y a des problèmes, on coupe l'Internet, c'est normal.
Ok.
Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux là qui nous donnent, c'est-à-dire des fausses informations, c'est normal.
Merci.
Il ne faut pas qu'il tombe dans le truc de Brahim là.
Bon, merci Camara. Camara qui dit qu'il faut accepter les résultats de l'élection en Mauritanie. 33 1 55 07 58 00. C'est la libre antenne du journal des auditeurs. On continue de parler de la Mauritanie avec William. William, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Alors William, vous revenez sur la position de la France. Rapidement, le Quai d'Orsay a fait un communiqué pour féliciter le candidat du pouvoir, Oul Rouazani, parlant d'un grand moment démocratique. La France est-elle fourvoyée avec ce communiqué?
Ben Stéphanie, moi je ne sais pas qu'est-ce que cette France nous veut, nous, finalement, en Afrique. Ça a toujours été. Je ne comprends pas ce que je disais au temps.
Est-ce que la Mauritanie n'est pas un partenaire particulier, un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel?
Ben, Stéphanie, ça c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que le peuple veut. Quand aujourd'hui le peuple a banni celui qui est au pouvoir et que celui du pouvoir se sent déjà mal aimé et s'il faut dire contesté, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un dauphin. Mais franchement, soyez réaliste. Si vous-même on ne vous aime pas, ça veut dire que votre défunt, il fait partie de votre système. Et donc lui également, il sera pas aimé par cette population. Donc on ne peut pas le voter, ça sera 1 milliard qui passe. C'est ça, c'est la réalité, Stéphanie. On a vu ça en RDC.
Ouais.
Le Congolais ne voulait plus de Kabila, il a pris Chadari. Mais Kabila savait que Chadari ne pouvait pas passer. Mais ils ont fait un deal avec Tshisekedi aujourd'hui, ils sont là au pouvoir pour qu'ils puissent continuer.
Donc vous dites que c'est la continuité en Mauritanie avec l'élection de Oul Rouazani.
Tout à fait. Moi, c'est qu'il faut que la France le laisse le débrouiller en Afrique.
Mm.
C'est pas sérieux. Il ne peut pas prendre. Les Français ne peuvent pas prendre l'ordre. À chaque fois, le devant pour accepter un pouvoir en Afrique qui est contesté.
Est-ce que ce communiqué a finalement un poids sur la situation, William?
Mais bien sûr que oui, Stéphanie. Mm. Dès que la France dit son mot sur. Quelque chose, en fait, une élection en Afrique, disons, en acceptant les résultats, mais ça veut dire que la France...
Ça valide l'élection, vous dites, finalement. Merci beaucoup, William, de votre intervention. Je demande, Diaby, qui nous dit sur la Mauritanie, les élections étaient fraudées. Je demande à Joseph Ediara de patienter un peu. On va écouter Diaz, justement, qui voulait revenir sur la question des élections. Alors, Diaz. Vous pouvez couper votre radio, Diaz, s'il vous plaît, ou votre kit main libre. Diaz, bonjour.
Bonjour, madame Stéphanie.
Vous avez coupé votre radio? Oui.
Oui.
Oui, je m'entends plus, c'est bon. Diaz, vous voulez parler des élections en Afrique. Alors, quel regard portez-vous justement sur cette élection présidentielle qui vient de se dérouler en Mauritanie? Le président sortant ne se représentait pas. C'est finalement le candidat du pouvoir qui a été élu. On fait face à une contestation. Pour vous, les élections demeurent une farce sur le continent?
Ben, pas forcément une face, mais c'est les gars ne respectent pas les constitutions que eux-mêmes se sont données pour des élections en Afrique. Je parle de l'Afrique francophone. Il y a des institutions qui sont là pour donner le résultat d'une élection présidentielle. Mais c'est les 15 personnes qui donnent le résultat avant. Et c'est ça qui crée des crises. Mais mon intervention consiste à dire aujourd'hui. C'est une demande et une prière que je veux d'ailleurs. En Afrique, si on pouvait, les élections pouvaient avoir lieu le même jour, je vais parler de la Côte d'Ivoire, parce que c'est de la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Mali, les pays frontaliers, ce qui éviterait qu'un pays aille recruter dans un autre pays pour s'y faire élire. Comprenez ce que je veux dire.
Vous accusez, lors de scrutin, certains pouvoirs de faire appel à des étrangers, c'est ce que vous venez de dire, en tout cas des ressortissants d'autres pays, pour aller gonfler les bulletins de vote. Pour le coup, en Mauritanie, c'est pas sûr que ce soit Chekna, depuis Nouakchott, nous disait tout à l'heure, ce qu'on qualifie d'étrangers, en fait, ce sont des Mauritaniens.
Non, madame, je ne suis pas dans le cas de Mauritaniens.
Ah, pardon,
je
la Côte d'Ivoire.
Je parle de la Côte d'Ivoire et des pays frontaliers, au fait. Pour éviter des morts inutiles. Parce que chaque pays, chaque candidat dans son pays a besoin de son peuple pour le voter. Vous me comprenez?
Et donc il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous dites, Diaz?
Comment ?
Il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous dites ?
Non, c'est pas ce que je dis.
Ah bon ?
Je dis, si les élections avaient lieu le même jour au Burkina, au Mali, dans les pays frontaliers, entre les pays frontaliers, pour éviter d'aller chercher les votants dans un autre pays pour voter.
Mais qui va chercher les votants dans un autre pays, Diaz ?
Mais on attend aujourd'hui, c'est partout, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Aller chercher des électeurs dans un autre pays.
C'est ce que disait le président Bédier hein, il y a quelques semaines. Hein, il a réaffirmé ses propos, hein, d'ailleurs, hein, sur ces étrangers qu'on fait venir, notamment dans leur paillerie.
Justement, madame Stéphanie, même si je prends le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, je vais pas me limiter là. Et pourquoi ces crises-là ? C'est ce que j'ai dit là tout à l'heure. Mais Bédier, lui, parle aujourd'hui des étrangers. C'est le comportement des étrangers, c'est pas les étrangers en tant que tels. C'est le comportement. C'est ce que j'ai dit. Si les élections avaient lieu au Burkina, le même jour que la Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller chercher les électeurs au Burkina pour se faire élire, parce que celui qui est candidat au Burkina a besoin de son peuple pour le faire voter.
Oui, on a compris votre raisonnement, voilà. Diaz. Je ne suis pas sûr qu'il soit... Mais on a compris, effectivement, hein, que chacun, finalement, a besoin d'un corps électoral, c'est ce qu'on appelle, effectivement, pour voter. Diaz, merci beaucoup de votre participation. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. J'invite Joseph, Diarra et les autres à continuer le débat sur le répondeur d'Africa Radio. Le numéro, c'est le 33 1 55 07 58 05. Laissez vos messages, nous les diffuserons bien sûr lundi. Lundi, on parlera hein, du Sahel. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres à l'écoute d'Africa Radio. La seule, l'unique, la vraie radio africaine. Bon week-end.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.